Tous les jours à partir de 9h, l'équipe d'Okapi Service se met entièrement à votre service. Santé, consommation, droits du citoyen, éducation, conseil au monde rural. Les spécialistes répondent en direct à vos questions. Avec ONG Partenaires, l'emploi, le conseil du jour et Service Plus, trouvez des pistes simples pour améliorer la vie de tous les jours. Okapi Service, l'émission libre service de la Radio de la Paix.
Voilà, c'est parti pour le magazine Okapi Service. Des sujets, comment sensibiliser davantage la population au respect des biens publics. Rachidi Kayombo, formateur à l'Institut stratégique des développements durables, est notre invité. Nous rappelons le numéro de contact. Si vous voulez poser des questions par rapport à ces sujets, appelez au 081-890-63-94. Bon nombre de Congolais n'ont qu'un respect pour les biens publics. Si certains s'illustrent par des comportements qui frisent le vandalisme, d'autres, par contre, de prendre convenablement soin de tout ce qui est bien public. Alors, qu'entend-on par bien public et que faire pour sensibiliser davantage la population à avoir un comportement citoyen? Nous allons développer tout cela avec notre invité, Rachidi Kayombo. Vous êtes formateur à l'Institut stratégique du développement durable. Qu'est-ce qu'on peut d'abord comprendre par un bien public?
Un bien public, c'est généralement un bien dont tous les citoyens, toute la population a besoin pour jouir. Donc, lorsque nous pensons que nous avons un bien public, ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut se prévaloir, s'approprier seul ce bien. Il doit servir tout le monde et tout le monde doit avoir accès, n'est-ce pas, à ce bien.
Un exemple de ces biens, il peut s'agir par exemple d'une école, d'un bus de transport en commun.
D'un hôpital, d'un bâtiment d'usage public, de beaucoup de choses, n'est-ce pas? Donc ce qui intéresse, n'est-ce pas, la vie de tout le monde est un bien public. Et généralement, c'est tout le monde qui veille à sa conservation le plus longtemps possible.
Et bien souvent, c'est pas le cas. Généralement, tout ce qui est bien public n'est pas bien entretenu. On se dit, bon, il y a l'État, ça m'appartient pas. Pourquoi prendre autant soin de ça? L'État a beaucoup d'argent. L'État, une fois c'est abîmé, l'État va encore débourser de l'argent pour reconstruire soit une école, pour acheter soit encore des bus.
Bien, vous voyez que l'histoire d'un peuple est une histoire qui nous accompagne tous les jours du point de vue culturel, du point de vue valeur. Considérer un bien et le protéger suppose que vous y avez participé et vous tirez profit, n'est-ce pas, de ce bien. Et généralement, la manière dont nous avons été gérés pendant un certain nombre d'années, même depuis l'époque coloniale, on nous a plutôt servi. Sans que nous-mêmes nous puissions être conscients que c'est nous, avec nos efforts, que nous avons contribué, n'est-ce pas, à bâtir une école, un dispensaire, une route. Mais lorsque soi-même, on y a participé, il est difficile de détruire son œuvre. Voilà un peu ce que nous pouvons dire, que si nous devons envisager aujourd'hui la conscience vis-à-vis des biens publics, il faut que les citoyens, la population, prennent conscience et participent effectivement à la construction ou à la mise en œuvre de ces biens. Sinon, c'est un bien qui appartient à autrui, on n'a pas de considération envers ce bien.
Et que faut-il faire pour sensibiliser davantage la population par rapport au bien public, à respecter tout ce qui est bien de la communauté?
La première approche, c'est l'approche éducative. Et d'ailleurs, c'est l'unique et fondamentale. Oui. Lorsque vous voulez, n'est-ce pas, pour un enfant, lui montrer que tel habit est d'une certaine importance. Il faut inculquer dans sa tête l'intérêt qu'il y a à ce qu'il porte cet habit-là, ou ces bonbons-là, ou ce mets-là. Donc, mais lorsque nous, dans la culture générale, c'est-à-dire dans un pays où nous avons été éloignés à la gestion, où nous avons été privés de nos droits, donc nous pensons que les biens qui existent, ce sont les biens des autres, moi je n'en tire pas profit. Alors, le comportement qui en découle, c'est le rejet, c'est la frustration et donc la destruction. Donc nous pensons que si il faut aujourd'hui sensibiliser la population congolaise à respecter les biens publics, il faudra que de manière claire, dans la gestion transparente, il sache chacun que c'est grâce à ses efforts que ce bien-là existe. Et par conséquent, il pourra préserver, n'est-ce pas, l'existence de ce bien.
Ah, vous avez dit il faut commencer dans l'éducation, ça doit commencer par l'éducation. Vous estimez, par exemple, déjà dans les écoles, il faut apprendre aux enfants comment respecter tout ce qui est bien public.
Mais naturellement, parce que dans les textes que les enfants lisent, il faut qu'il y ait des valeurs qui démontrent que le bien public est un bien à protéger. Déjà dans les textes de lecture de français ou en langue nationale, il faut que cela existe déjà. De manière à ce que dans la vie pratique, l'enfant découvre que ce bien le sert effectivement. Alors, pour les adultes, c'est la même chose. Nous sommes dans un état. Quelle est la vision que nous avons vis-à-vis de l'état congolais, par exemple, parce qu'il s'agit de notre pays. Mais quand nous pensons que cet état ne s'occupe pas de moi, vous pensez que moi je pourrais utilement, n'est-ce pas, protéger un bien qui appartiendrait ou qui serait géré par ces autorités? Donc, cette considération, ce partenariat-là, qui est d'abord psychologique et qui permet à ce que moi je me sente concerné dans le bien. Eh bien, mais pour cela, absolument, pour tout ce bien. Bien sûr, ça, dans toute société, il ne manque pas des cas déviants. Nous avons aussi des déviations, des gens qui sont anormaux. Mais, cependant, ici, nous inscrivons dans la perspective d'un cas général où il existe des normes qu'on doit respecter, il existe un amour envers le bien, on existe un intérêt, un contact direct entre le bien et les citoyens, eh bien, à ce moment-là, je crois que ce cas de vandalisme ne peut pas se produire.
Donc, vous avez parlé des élèves à l'école, mais dans la vie de tous les jours, qui doit faire ce travail. C'est vrai que je sais que au niveau des médias, on peut bien sensibiliser, mais au niveau de la communauté, comment on peut s'organiser pour faire comprendre à la population que voilà, cet hôpital, bien ces centres de santé, ou bien, je ne sais pas, cette coopérative, c'est un bien public, ça nous aide à tous. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on peut s'organiser au niveau de la communauté?
D'abord, il faut retenir qu'il y a plusieurs acteurs qui contribuent, n'est-ce pas, à l'élévation des valeurs. D'abord, les parents. Vous savez, tout comme moi, que beaucoup de parents ont relâché, tellement ils sont à la recherche, n'est-ce pas, des moyens de subsistance, ils s'occupent moins des enfants. Il y a des parents qui rentrent à 22h, 23h. Ils partent le matin et rentrent à 22h, 23h. La maman est au marché du matin jusqu'à 19h. Mais les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. À quel moment peuvent-ils, n'est-ce pas, inculquer à leurs enfants certaines valeurs fondamentales, n'est-ce pas, de la vie en commun. C'est ça. Donc, le deuxième lot d'acteurs, c'est les enseignants. Là aussi, vous savez quel est l'état de délabrement, nous le connaissons. D'abord, au niveau des programmes, eux-mêmes les programmes ont été relâchés, ils sont déconnectés de la vie culturelle, de la vie sociale, des programmes que nous avons aujourd'hui dans l'enseignement, et vous comprendrez que l'enfant, les idées qu'il reçoit de l'école, il n'a pas où les appliquer. Que ce soit les idées, n'est-ce pas, de la bienséance, les idées, n'est-ce pas, de la propreté. Bon, tout ça, il n'a pas le temps de les appliquer. Il les consomme à l'école, comme un peu de manière théorique, mais arrivé à la maison, personne n'est là pour les faire appliquer. Donc, il y a relâchement. Nous avons en troisième lieu l'État lui-même. Lorsque l'État, par exemple, a construit une école, mais à côté de l'école, parce qu'il doit y avoir une certaine distance entre l'école et les maisons d'habitation, il n'y a pas de distance. Et il y a à côté, n'est-ce pas, une église où on chahute tous les jours pendant que les enfants sont en train d'étudier. Bon, vous comprenez que l'enfant sera distrait. Donc la valeur pour lui, c'est les chansons dans l'église. Donc il sera plutôt distrait à suivre à la fois les enseignements donnés par le maître et les chansons de l'église. Donc là aussi, l'État n'a pas fait respecter les normes. Et pourtant, les normes existent. Entre, n'est-ce pas, une école et un magasin. N'est-ce pas? Entre une école et une église. Entre une école et un terrain de football. Entre une école et un champ, par exemple, d'expérimentation, n'est-ce pas, l'agriculture. Toutes ces règles-là.
Et il y a également des terrasses qui foisonnent autour des écoles. Hein, et souvent, des jeunes gens, après avoir pris de la bière, deux fois, ils griffonnent sur le mur, salissent même de murs. Ça, c'est pas respecter les biens publics.
Mais justement, parce qu'on n'a pas mis les garde-fous traditionnels. Les garde-fous traditionnels, c'est qu'on doit respecter une certaine distance entre les murs de l'école et les bistrots. Or, ce n'est pas le cas. Il y a promiscuité à tous égards. Donc, lorsque vous avez, par exemple, un parent, je vais vous revenir à ce cas, qui n'a pas suffisamment d'espace pour faire, pour loger dans une chambre, pour loger les filles et les garçons. Vous voyez ce que ça peut se faire. Donc, tout ça, ça détruit. Donc, il y a des normes, n'est-ce pas? Même quand il faut construire l'habitat, qu'il doit pouvoir respecter pour que les autres valeurs supérieures du respect des biens publics, des jouissances, de l'environnement, soient respectées et adorées par tout le monde.
Alors, on va poursuivre avec vous, Rachidi Kayombo, formateur à l'Institut stratégique des développements durables. Avec vous, on parle de comment sensibiliser davantage la population au respect des biens publics. Nous avons déjà des auditeurs en ligne. Michel qui nous appelle de Kamina dans le Katanga, Doudou Kadimet en Bujima dans le Kasso Oriental, Soupligny Mbota Kalima dans le Maniema. Vous êtes également intéressé par rapport à ces sujets. Appelez au 081 800 90 63 94.
Votre connexion internet est trop lente? Radio Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes ML. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes ML, c'est gratuit. Radio Okapi.net à votre service.
Michel, vous êtes à Kamina dans le Katanga. Bonjour Michel.
Bonjour Mathieu.
On vous écoute. Quelle est votre question?
Justement, j'ai pris pour l'occupation. Ma première préoccupation, j'aimerais d'abord savoir s'il y a-t-il une différence entre les biens publics et les biens communs.
Oui.
Et puis, quel conseil que notre invité peut quand même donner à certaines autorités, quand même, à certains fonctionnaires de l'État? Alors, elles-mêmes d'abord qui gèrent très mal les biens publics. Alors, c'est eux qui sont quand même à la base de donner aussi un exemple. Mais elles-mêmes gèrent déjà les biens qui t'as très mal. Alors, comment est-ce qu'ils peuvent aussi sensibiliser des personnes?
Merci, Michel, d'avoir appelé du Kamina dans le Katanga, Bujima et au Kasso Oriental. Doudou Kadima est en ligne. Bonjour, Doudou.
Bonjour, Marcel. Bonjour, tu es à l'invité.
On vous écoute, Doudou.
Oui, c'est un sujet très important. Moi, je vais me focaliser surtout sur le parti politique. Parce qu'ils doivent jouer aussi un grand rôle dans la sensibilisation de la population. Alors, d'abord, les partis politiques doivent jouer un grand rôle dans ce secteur. En ce qui concerne les actes de vandalisme en masse, parce que ce sont eux qui devaient quand même éduquer les membres de leur parti à éviter de détruire les biens publics. Surtout nos amis de l'opposition, à chaque fois où ils veulent manifester, vous allez vous rendre compte qu'ils ont toujours tendance à détruire les biens publics et faire les actes de vandalisme. Alors, c'est pourquoi il faut qu'on s'attaque d'abord à l'éducation des bases, parce que ces gens-là n'avaient pas réussi une très bonne éducation dans leurs familles respectives. Alors,
oui.
Maintenant ma question est de savoir... Comment peut-on adopter une très bonne sensibilisation envers ce genre de personnes? Ça, c'est ma première question. Là, pour terminer, qu'en pense l'invité pour certaines autorités qui ont transformé les biens publics comme leurs biens privés?
Merci, Doudou Kadima, d'avoir appelé de Mbujimayi au Kasai Oriental. Soupi Niembo, vous êtes à Kadima, dans le Maniema. Bonjour, Soupi.
Bonjour, Marcel. Bonjour à tous. J'ai des... question. La première, je voulais demander auprès de notre invité, est-ce qu'il y a des sanctions, par exemple, au chef qui était le directeur ou qui était membre d'une école? Parce que j'avais vu un jour, M. Marcel, quelqu'un qui était chef, qui connaît, par exemple, la limite donc, de l'école, mais il commence à faire cette limite-là pour faire...
Oh, Soupi Niembo n'est plus en ligne. Désolé pour Soupi Niembo, pourra peut-être le retrouver plus tard. Alors, on revient aux questions plutôt posées par Michel et Doudou Kadima. On commence par Michel qui a cherché à savoir la différence qu'on peut établir entre un bien commun et un bien public.
D'abord, de manière simple, un bien public est un bien commun. Mais le problème ici, c'est au niveau de la gestion. Lorsque nous parlons d'un bien public, c'est-à-dire un bien public est un bien qui est géré sous la responsabilité des autorités établies. N'est-ce pas? Par contre, un bien commun est un bien qui appartient à tout le monde de manière générale et dont tout le monde peut avoir accès de manière libre. Oui, donc, tandis qu'un bien public peut, n'est-ce pas, être accompagné dans sa gestion d'une petite contrainte. Voilà un peu la petite différence que j'ai pu trouver à ce niveau.
Elle a également demandé qu'est-ce que vous pensez des fonctionnaires de l'État qui, souvent, d'après lui, ne respectent pas souvent tout ce qui appartient à l'État et qui est mis à leur disposition.
Bien, la question que notre ami pose est une question très très importante parce qu'elle nous renvoie au comment on recrute les agents de l'État et aux fonctionnaires de l'État. Ce sont dans le passé, et ce sont définis comme ça à travers le monde, les gens qui sont porteurs d'idées et qui accompagnent les gouvernants dans la réflexion. Mais la manière dont on a recruté ces agents, sans critères, ni moral, ni intellectuel, pour certains. Mais moi, je mets l'accent ici sur les critères moraux. Mais, étant donné que l'autre qui venait de parler de la sanction, il n'existe pas de sanction. Mais il n'y aura que des abus. Alors, et comme ils sont mal payés, généralement, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils trouvent que c'est dans le bien public qu'ils peuvent, eux, tirer, n'est-ce pas, leurs moyens de subsistance. C'est ça le drame. Mais je crois que pour résoudre ces problèmes, c'est de la responsabilité de l'État, donc employeur pour eux, de l'État protecteur, n'est-ce pas, des intérêts globaux de la société, qui devrait mettre, n'est-ce pas, des limites pour servir les agents de l'État, les fonctionnaires de l'État, pour qu'ils vivent de leur salaire et qu'ils mettent des limites lorsque les agents de l'État commettent des fautes, abusent, n'est-ce pas, de leur position pour sanctionner. Or, la sanction n'existe pas. Donc, c'est ça les drames. Donc, nous pensions que pour éduquer, sensibiliser, n'est-ce pas, même les partis politiques dont on a parlé l'autre, mais eux, accèdent au pouvoir, ils veulent, ils concourent pour accéder au pouvoir. C'est pour aller jouir. Généralement, c'est ça. Alors, donc, quand ils arrivent à jouir, nous avons l'expérience depuis l'ouverture au pluralisme politique dans ce pays, mais ceux qui sont allés dans les arènes politiques, c'était plus ce qu'on a observé, pour servir la population.
Mais Doudou Kadi m'a dit plutôt qu'ils ont également un rôle à jouer, ils doivent plus également sensibiliser la population.
Dans leur mission, il est vrai qu'ils doivent éduquer, parce qu'il faut présenter les candidats d'une certaine valeur morale. Or, il se fait que la manière même de recruter dans les partis politiques ne respecte aucune règle de moralité. C'est un peu un rassemblement spontané, pourvu qu'on y arrive. C'était ça, c'est un peu ça le jugement. Et je crois, moi, fermement, que, avec l'expérience que nous avons eue, n'est-ce pas, de pillage de 91-93, mais nombreux parmi les partis politiques ont compris que ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut aller. Mais cependant, il faut comprendre que la population elle-même n'est pas encadrée correctement.
Alors, il a également posé la question de savoir avant, il y a d'autres auditeurs en ligne, mais avant de le mettre en ligne, si vous voulez bien répondre à cette question de Doudou Kadima qui a également demandé quelle est la bonne attitude à adopter pour sensibiliser la population.
Je crois que lorsque nous voulons sensibiliser la population, lorsque nous rentrons, n'est-ce pas, dans le passé, il y a d'abord, l'existence d'une justice juste. Dans une communauté où il n'y a pas de justice, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de sanctions, la dérive est toujours possible. Et d'ailleurs, souvent, on arrive à la dérive. Deuxièmement, le rôle que chaque institution doit jouer. Et lorsque les uns, n'est-ce pas, dérobent les rôles des autres, il y a frustration, il y a crispation, et donc, appel à la violence. Donc, s'il faut vraiment éviter le vandalisme, il faut que chaque institution joue son rôle, et de manière transparente. Et enfin, les gardiens de la maison, les agents de l'État, ils doivent servir les gens en toute loyauté. L'administration est faite pour servir les biens publics à la population. Or, ce service n'arrive pas. Et même s'il arrivait, il est discriminatoire. Donc, vous comprenez que ceux qui ne sont pas servis ne veulent adopter une certaine attitude. Et c'est un peu ça le cas que nous vivons dans beaucoup de pays africains. Il y a beaucoup de frustrations et les partis politiques, parfois, ne subissent ce que, ou profitent, n'est-ce pas, de ces mécontentements pour accompagner ou déclencher, n'est-ce pas, les mouvements de vandalisme.
Voilà, on va prendre d'autres auditeurs en ligne. Tienne, qui nous appelle de Guémena, dans la province de l'Équateur, et Memina Koita Isiro, en province orientale, et Charles Etal Bombashi au Katanga. On y va avec Etienne, qui est à Guémena. Etienne, bonjour.
Bonjour à Radio Kapi, bonjour à tous les auditeurs et à l'invité.
On vous écoute, Etienne, allez-y. Quelle est votre question?
Ok, merci, monsieur le journaliste. Je crois que mes deux petites questions sont déjà posées par mes prédécesseurs, mais au moins, j'ai une petite contribution par rapport à ce sujet du jour. Donc, je suis tout à fait d'accord avec le juge. Quand il a donné le rôle des institutions, il a parlé de la justice qui doit faire son travail pour que les gens parviennent à respecter les choses publiques. Mais un aspect que j'aimerais soulever, monsieur le journaliste, c'est que moi, je pourrais suggérer à l'État congolais de pouvoir insérer à l'éducation nationale, à l'école déjà, dans l'école, à l'école primaire, tant secondaire, qu'on puisse avoir ce que nous appelons l'éducation civique et patriotique. Cela permettrait déjà à ce que les enfants qui sont sur les bancs de l'école, on puisse leur apprendre déjà comment respecter les biens publics. Ça permettrait à ce que ces enfants, lorsqu'ils vont grandir, ils vont les respecter. Aujourd'hui, monsieur le journaliste, vous comprendrez que les biens publics ne sont pas respectés. Par exemple, les bâtiments scolaires. Vous verrez, les gens sont en train d'écrire leurs noms, des écrits par-ci, par-là. Les routes ne sont pas respectées. Je vais donner un exemple. Par exemple, on veut réhabiliter un pont, mais on amène de pierres, on amène de sable. Mais les gens viennent la nuit transporter les pierres-là et les sables pour leur propre fin. Vous imaginez que là, c'est l'immoralité. Et il n'y a pas raison de dire plus. Donc, si on pouvait déjà, au niveau de l'école, insérer ce que nous appelons l'éducation civique et patriotique, je pense que les enfants, en grandissant, seront à mesure vraiment de... Ce serait une très bonne sensibilisation, où les gens vont comprendre que le bien public doit être respecté, on doit respecter les biens, on ne peut pas prendre un bien public pour son fin personnel, en quelque sorte.
Merci. Merci beaucoup, Étienne, d'avoir appelé de Guémena, dans la province de l'Équateur. Aimé Minakouita, ici, roi, province orientale. Bonjour, Aimé.
Bonjour, Marcel, bonjour à l'invité.
On vous écoute.
J'ai des questions, Marcel, par rapport à ce sujet du jour. J'aimerais plus savoir comment et où se fait la sensibilisation par rapport au respect des biens publics. La sensibilisation se fait à l'église, à l'école, à la maison, comment ça se fait juste? Et la dernière question de savoir est, si quelqu'un utilisait d'une manière mauvaise un bien public, par exemple, sera dans une bibliothèque, et il arrivait qu'un livre se déchire ou se salit, la personne sera censée à supporter son mal ou comment? Il y a une sanction à celle-là ou comment vendre?
Merci, Aimé Minakou, d'avoir appelé d'ici la province orientale. Charles, vous êtes à Lubumbashi dans le Katanga. Bonjour, Charles.
Bonjour, Marcel. Bonjour à l'invité. C'est Charles Salangueta à partir de Lubumbashi.
On vous écoute, Charles.
Oui, par rapport au respect des biens publics, j'ai essayé de constater un tout petit peu. Par rapport, il y a entre les milieux urbains et les milieux ruraux. Dans les milieux ruraux, les gens s'efforcent quand même à respecter les biens publics. Mais par rapport aux milieux urbains, particulièrement ici à Lubumbashi où je me retrouve, les gens essaient un peu d'ignorer cette loi-là. Mais j'aimerais maintenant poser à l'invité, qu'est-ce qui fait à ce qu'au milieu urbain, là où il y a un faible taux de gens qui sont éduqués, mais les gens s'efforcent quand même par rapport au milieu urbain? Merci, Marcel.
Merci à vous aussi, Charles, d'avoir appelé de Lubumbashi dans le Katanga. Rachidi Kayombo, vous êtes formateur à l'Institut Stratégie et Développement Durable. Avec vous, on parle de comment sensibiliser davantage la population au respect des biens publics. Vous avez suivi la contribution d'Étienne, qui nous a appelé de Guémena, d'un point de l'Équateur, qui a parlé de faut qu'il y ait déjà le... Mais il y a les cours de civisme quand même à l'école, hein.
Bien, moi, je ne sais pas si... Il y a dissonance entre lui et nous ici aussi au plateau. Moi, je crois que nous avons toujours parlé de ça. L'essentiel, c'est de mettre un contenu adapté à l'environnement.
Il n'a pas d'éducation civique et patriotique.
C'est ce que j'ai dit. On peut mettre l'éducation civique et patriotique, mais si son contenu n'est pas opérationnel, ne peut pas permettre au changement des mentalités, ce sera un cours. Bien sûr, alignés, pour lesquels on va poser des questions aux enfants, ils vont répondre, un peu comme les perroquets, mais sans application. Ici, il est question de voir en profondeur quels sont les facteurs qui peuvent effectivement amener le respect du bien public. C'est ça. Donc, je ne suis pas contre, n'est-ce pas, le fait qu'on mette le cours, mais j'insiste sur le fait que il y a le contenu qui doit être un moteur de changement pour qu'il y ait davantage respect du bien public.
Et même Minakou qui demande comment, où doit se faire la sensibilisation, il a parlé par exemple des églises, les pasteurs ont également un rôle à jouer. Hein.
Tous les acteurs sociaux sont appelés à faire la sensibilisation, y compris les pasteurs. Mais cependant, lorsqu'on dit qu'on doit faire la sensibilisation, on doit soi-même être modèle. Nous avons un déficit de modèle d'enseignants, un déficit de modèle des pasteurs, un déficit de modèle des fonctionnaires, un déficit aussi de modèle des politiciens. On en a parlé parce qu'on a parlé des partis politiques.
Oui.
Donc nous avons des déficits partout. Chaque compartiment doit pouvoir fournir un effort pour que nous puissions à terme arriver de manière convergente à respecter effectivement les biens publics. C'est ça d'ailleurs la condition pour le développement.
Et il m'a donné l'exemple d'une bibliothèque, par exemple, lorsqu'on vient pour prendre un livre et puis lire, et s'il arrivait que quelqu'un ne sait pas prendre soin du livre, il va par exemple jusqu'à déchirer le livre, il faut déjà à ce moment-là faire comprendre à la personne que ça, il s'agit des biens pour tout le monde, il faut bien protéger. Alors, même il nous demande dans ces cas, qu'est-ce qu'il faut faire?
Mais c'est clair, j'ai commencé par dire ici que l'éducation commence à la maison. Déjà, la manière dont la maman encadre l'enfant pour lire, conserver, garder des livres, son livre, l'enfant commencera à comprendre qu'il faut respecter les livres. Surtout, à travers ces livres, il peut tirer, n'est-ce pas, certaines connaissances ou certaines valeurs morales qui lui permettent de grandir avec, qui l'aident, n'est-ce pas, dans la vie communautaire. Mais cependant, lorsque maintenant nous observons que nous avons des adolescents qui vont dans les bibliothèques détruire, ça signifie qu'il n'y a pas d'intérêt entre l'adolescent et les livres. Donc il n'y a pas cette interaction positive. Et c'est ça que nous déplorons. Nous disons, c'est tous les acteurs sociaux qui doivent jouer pour que, déjà au niveau du bien commun, avant d'arriver au bien public, il y ait encadrement. Il n'y a jamais un peuple qui puisse arriver à des bons résultats s'il n'est pas encadré. Or, un peuple abandonné, vous comprendrez que les résultats sera toujours un fiasco.
Et pour ce qui est de Charles qui a appelé de Lubumbashi, il a fait les constats selon lui qu'un milieu urbain, on tente quand même de respecter le bien public, plutôt en milieu rural par rapport à un milieu urbain. Il a cité par exemple pour lui à Lubumbashi, il a comme l'impression que c'est pas le cas. Il a même donné des exemples.
Oui, notre ami a fait un très bon constat. Dans la mesure où il a distingué les milieux urbains et les grandes agglomérations, moi je n'appelle pas seulement milieux urbains, les grandes agglomérations, okay, où il y a surpeuplement, hein, et les pays de l'agglomération où les espaces un peu ouverts. Mais comprendrez que le cadre de vie dans les milieux ruraux est un cadre de vie autre que dans les milieux urbains. Il n'y a pas cette pression des besoins dans les milieux ruraux. Il y a ce que moi je pourrais appeler cette patience, hein, dû au fait que l'environnement, hein, donne, n'est-ce pas, certains biens qu'on ne trouve pas en ville gratuitement. Tandis qu'en ville, donc, je pense, on commence par l'eau, la source, l'eau de la source. Eh bien, on va respecter l'eau de la source ou la source parce que tout le monde sait où aller s'abreuver. Et c'est l'eau pure, tout le monde le sait. Donc, on respectera. Tandis qu'en ville, l'eau vient des robinets. On ne sait pas qui les a pompés. Et peut-être la facture d'électricité coûte beaucoup plus cher. Hein? Si nous comparons ça avec les petits salaires qu'on a. Alors, vous voyez déjà, on a une réaction, hein, qui fait que, hein, on a tendance à détruire. Il y a également la promiscuité, c'est-à-dire, hein, une forte pression des grandes populations sur un petit bien. Donc tout le monde veut. Vous remarquerez par exemple, pour entrer dans les bus, hein, si je dois comparer Lubumbashi et Katanga, Katanga et Kinshasa. Ici, pour entrer au bus, on doit se battre. Même si on est deux. Mais à Lubumbashi, on se met en rang. Vous voyez? Donc, ça fait des phénomènes qui sont liés au milieu et qui interpellent, n'est-ce pas, l'autorité, dans l'aménagement des espaces de vie. Là où il y a eu mauvais aménagement des espaces de vie, eh bien, vous n'aurez que des difficultés. Et vous n'aurez que des frustrations, des crispations, des jalousies, et même le nombre des églises va augmenter.
Il faut davantage sensibiliser la population. Vous avez dit dans tous les secteurs, à chaque niveau, il faut que chacun puisse comprendre cela. On m'a même donné des exemples. Par exemple, il y a des entreprises ou de certains responsables ont des véhicules de l'État et ils utilisent ces véhicules comme ils veulent. Mais aussitôt que ces véhicules leur ont été proposés à crédit, c'était plus le cas. On a commencé à prendre bien soin de ces véhicules. Il y a quelqu'un qui a parlé, par exemple aussi, d'une société de la place qui, à un moment, a donné à crédit les habitations aux employés qui habitaient dans ces maisons. On a commencé à prendre soin de ces maisons, puisqu'on sait que ça va vous appartenir. Donc il faut davantage vraiment conscientiser la population par rapport à au respect de tout ce qui est bien public, de tout ce qui est bien qui appartient à l'État. Je crois qu'on va s'arrêter par là, moins que vous ayez un dernier appel à lancer à la population par rapport à ces sujets.
Je crois que le sujet, monsieur le journaliste, est très très important, dans la mesure où toutes les parties, toutes les composantes prennent conscience de leur rôle. L'État, c'est le premier responsable de tout ce qui arrive. Je parle de l'État, je ne parle pas des acteurs politiques. Lorsque l'État joue mal son rôle, il ne paye pas son personnel. Il ne fait pas payer les autres personnels, n'est-ce pas, les entreprises, comme il se doit. Donc, il n'y a pas de justice. Eh bien, tout est possible. Or, maintenant que nous sommes en train de vouloir construire un État démocratique, nous devons mettre en avant-plan des valeurs sociales. Parce que lorsque les gens sont calmes, ils peuvent espérer une paix, donc une longévité dans leurs œuvres, eh bien, ils peuvent investir davantage. Donc, la responsabilité des partis politiques, des églises, des enseignants et de l'État doit absolument interpeller tous les Congolais. Il ne suffit pas seulement de condamner. Parce que les enfants qui font le vandalisme, ce sont nos enfants à nous, n'est-ce pas? Ça signifie que nous avons un échec. Mais la responsabilité n'est pas attribuée seulement à un groupe, la responsabilité est attribuée à toutes les parties. Parce que moi, mon enfant n'ira pas dans la rue s'il sait très bien que il doit respecter tel tel bien. Même s'il va dans la rue pour d'autres motifs, il ne va pas détruire. C'est ça. Donc, quels sont les garde-fous? Quelles sont les normes qu'on met dans la communauté qui font qu'il y ait respect du bien public? C'est ça la question fondamentale. Moi, je crois qu'il faut poursuivre, n'est-ce pas, ce débat et aller davantage dans les milieux de plus bas, parce que, comme on le dit souvent, la jeunesse est l'avenir de demain. Mais si aujourd'hui, elle n'est pas encadrée déjà dans le respect des biens publics, attendez-vous demain à ce que nous ne pouvons pas contrôler certains paramètres de la vie sociale et vie politique, surtout que nous entrons en démocratie.
Rachidi Kayombo, vous êtes formateur à l'Institut stratégique de développement durable. Vous étiez donc notre invité pour parler de comment sensibiliser davantage la population au respect des biens publics. Merci d'avoir été des nôtres. On espère vous retrouver prochainement.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.